Direct sur franceinter.com. Et on commence justement avec vous, Stéphane Foucard. Ce sont les oiseaux hein, qui ont retenu votre attention ces derniers jours dans l'actualité.
Oui, qui ont retenu l'attention du monde entier même, hein, puisqu'il y a eu...
Une fièvre sur Internet en particulier.
Oui, absolument. Une fièvre, mais aussi dans la presse, hein, il faut quand même le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que plus personne ne peut ignorer ce qui s'est produit ces dernières semaines. Ça commence le jour de l'an. Évidemment,
ah oui.
Comme un présage, on y reviendra, plus de 4000 ou 5000 oiseaux tombent morts dans une petite ville de l'Arkansas.
Donc dans le sud des États-Unis.
Dans le sud des États-Unis. Alors immédiatement d'ailleurs, des explications sont proposées, hein, feux d'artifice ou orage de grêle en altitude, etc. etc. Mais peu importe, d'autres événements étranges comme ça sont signalés dans la presse et arrivent sur les fils des agences. Des poissons qui meurent en masse dans le Maryland. On a eu aussi d'autres événements comme ça étranges mettant en scène des oiseaux qui tombent morts en Louisiane quelques jours plus tard. Et puis après, il y a une sorte de contagion incroyable. En Thaïlande, au Canada, en Suède, en Roumanie. Alors en Roumanie, on vient d'apprendre apparemment que les oiseaux sont morts d'ébriété. Ils avaient apparemment...
Des oiseaux ivres.
Voilà. ils avaient apparemment consommé un petit peu trop de raisins qui avaient déjà fermenté dans des bacs.
C'est incroyable cette histoire.
Je trouve ça absolument fascinant de voir que des mortalités certainement assez banales, mine de rien, quand elles sont mises ensemble, elles sont mises dans un même récit, elles prennent une importance, une dimension absolument considérable.
Il y a une contagion, hein, on peut dire, autour des oiseaux ces derniers jours.
Véritablement une contagion. Je crois que sur le moteur de recherche du New York Times, le terme birds, oiseau, a été le plus recherché pendant quelques jours, peut-être une semaine entière. Quand on regarde, par exemple, sur un outil qui est très utile, qui s'appelle Google Trends, on regarde ce que les gens recherchent sur Google, et on regarde qu'il y a une multiplication par 10 ou 20 du nombre de requêtes consacrées aux oiseaux, en particulier aux oiseaux morts. Donc c'est vraiment quelque chose qui a provoqué un intérêt, voire peut-être une inquiétude absolument mondiale.
Hier encore, Le Parisien consacrait une pleine page hein, à ce sujet, en se posant la question, mais qu'arrive-t-il aux oiseaux hein?
Voilà, qu'arrive-t-il aux oiseaux? Alors, c'est surtout qu'arrive-t-il aux hommes qui parlent autant des oiseaux, à mon avis. Et je pense que la question que posent ces mortalités, elles se posent plus à nous, plus à la société de l'information, qu'en termes de sciences environnementales, qu'est-ce qui a pu tuer ces oiseaux? Les oiseaux, il y en a qui meurent tous les jours, hélas. Et ça ne fait que très très rarement l'événement.
Ça veut dire quoi? A priori, ça n'affole pas les ornithologues de voir ces milliers d'oiseaux mourir aux États-Unis et puis ailleurs dans le monde. Il y a quand même cette coïncidence qui est assez frappante.
La coïncidence frappante, je pense qu'elle est très vraisemblablement fabriquée. C'est-à-dire que tous les jours, on pourrait trouver comme ça des coïncidences extraordinaires. D'ailleurs, la manière même dont ces affaires ont été présentées au public, ça relevait plus du présage, en quelque sorte, que de l'événement rationnel, explicable par des... D'ailleurs, la rationalité et l'explication n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'on trouvait toujours, un peu partout dans le monde, des événements comme ça, cohérents, qui mettaient en scène des situations un petit peu semblables, où on avait des mortalités inexpliquées de poissons, d'oiseaux, etc. etc.
Alors, vous dites cohérents, mais ils ont l'air incohérents, justement, quand on les écoute, les causes ont l'air toutes différentes.
Non, bien sûr, c'est tout à fait incohérent, mais on leur donne une cohérence un grand récit médiatique. Et alors, quand on s'interroge un petit peu sur les raisons pour lesquelles on a autant accroché à cette histoire, moi je pense qu'on a un rapport un petit peu étrange avec ces fameux oiseaux qui nous ramènent il y a très très longtemps, je pense en particulier à Rome, où les oiseaux avaient une importance cardinale. Les augures étaient chargés comme ça de lâcher des oiseaux en fonction de la direction qu'ils prenaient, d'interpréter, de prévoir ce qui allait se produire. Les Gaulois aussi, hein, on le sait un petit peu moins, mais les Gaulois voyaient dans les oiseaux des sortes d'intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des dieux. Les oiseaux, ça vole, c'est dans le ciel, etc. Donc les oiseaux transportaient les âmes des défunts vers les dieux. Enfin, il y a comme ça une sorte de un rapport tout à fait étrange qu'on a avec ces animaux et qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles on a autant parlé de ces affaires de mortalité.
Alors certains ont parlé d'ailleurs des premiers signes de la fin du monde annoncée, hein, avec 2012, l'apocalypse de 2012, ça y est, on a brandi la Bible en disant, mais voyez, ça y est, c'est parti déjà, ces oiseaux sont annonciateurs de cette fin du monde pour l'année prochaine.
Oui, absolument, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que les aruspices, qu'on lisait l'avenir, on lisait ce qui allait se produire dans les entrailles des oiseaux. C'est les oiseaux qui portaient les nouvelles des dieux. Ouais. Et donc, en fait, il se passe strictement la même chose. C'est-à-dire que cette mortalité d'oiseaux, elle intervient au début de l'année, donc à une période un petit peu charnière, et elle intervient alors qu'il y a énormément de minarisme ambiant avec 2012, l'apocalypse ouais. présumée, etc., etc.
Jean-Marc Lévy-Leblanc, qu'est-ce que ça vous inspire, ces histoires d'oiseaux ?
Bah, écoutez, c'est quelque chose qu'on voit se reproduire très très fréquemment. En vérité, c'est le fonctionnement de la rumeur. C'est le fonctionnement de la rumeur qui s'auto-entretient et nous-mêmes, aujourd'hui, ils contribuons d'une certaine façon. Parce que quand vous allez chercher Birds maintenant sur Google, il y aura notre émission. Ce que nous sommes en train de dire va s'ajouter.
C'est uniquement pour ça qu'on le fait d'ailleurs.
Bien sûr. Non, donc ça, c'est le fonctionnement général de la rumeur. C'est pour ça qu'elle est si difficile d'ailleurs à critiquer et à arrêter. C'est qu'elle se nourrit de sa propre critique et de sa propre négation. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que ces phénomènes de coïncidence ne sont des coïncidences que parce qu'on les remarque. Je veux dire par là qu'il y a tout le temps dans le monde des milliers d'événements qu'on pourrait mettre en corrélation si quelqu'un disait « Ah tiens, il se passe quelque chose de bizarre ». Je donne un exemple banal. Si je suis dans la rue et que je vois passer une voiture dont le numéro de plaque d'immatriculation est 284 ALL 1971, la plupart des gens n'y prêteront strictement aucune attention. Je dirais, tiens, c'est incroyable. J'ai une fille dont ce sont les initiales et qui est née le 28 avril 1971. Ce ne sera une coïncidence que pour moi, mais moi je la trouverais miraculeuse, tomber juste sur cette voiture à ce moment-là. Donc c'est extrêmement difficile de mettre en évidence le caractère totalement aléatoire et contingent de la coïncidence, parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il va toujours chercher du sens dans les événements, et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui nous a sans doute permis d'évoluer et de subsister à travers beaucoup d'aléas, c'est que nous sommes toujours à la recherche d'événements significatifs. Mais souvent, ils ne le sont en vérité pas.
Cédric Villani.
Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Lévy-Leblanc, bien sûr. Évidemment, c'est très important pour nous, à une époque, de chercher les coïncidences. Derrière les coïncidences, souvent, il y a des choses importantes. C'est comme ça qu'on a pu progresser la science en général. Mais après, il y a une déformation, et puis ça vient dans des croyances, de sorte qu'on croit avoir des coïncidences là où il n'y en a pas forcément. Alors, effectivement, là c'est les oiseaux. Des fois, on voit des récits de catastrophes de cétacés qui s'échouent, par exemple, en masse sur des plages, où on voit d'autres choses qui ne sont pas toujours expliquées, mais rien qui paraisse si extraordinaire que ça. Dans le cas des oiseaux en état d'ébriété, j'imagine qu'il y a des cas comme ça qui sont mentionnés.
Il n'y a pas que du raisin en Roumanie, hein, effectivement. Donc, voilà. A priori, on pourrait
j'imagine trouver... J'imagine que ça a déjà dû se passer à d'autres endroits, voilà. Des choses comme ça.
Absolument. Puis, parfois, il n'y a simplement pas d'explication. On ne trouve pas d'explication à certaines mortalités.
Alors, on peut rappeler quand même, parce que c'est une petite info amusante, qu'en 1914, certains ornithologues avaient mentionné la mort de 750 000 oiseaux en Amérique du Nord, décimés uniquement par un fait météo. Donc, 750 000. Hein. Là, on est dans une autre proportion. Et puis, Stéphane Foucard, ce qui vous intéressait, c'était d'abord de faire une analyse de ce phénomène et puis de montrer aussi à quel point le traitement médiatique différait sur un même sujet selon le thème. Parce que là, on est sur la mort des oiseaux et il y a un autre phénomène toujours autour des oiseaux qui a assez peu ému le public.
Oui, alors il s'agit toujours d'oiseaux, hein, bien évidemment. Mais alors, il ne s'agit pas du même genre d'événement parce que ce n'est pas un événement soudain, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est quelque chose qui se passe à plus basse fréquence et plutôt de l'ordre de la tendance lourde. Et alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'observations tout à fait étonnantes, vraiment surprenantes, qui sont faites depuis une décennie maintenant en Alaska, en Colombie-Britannique et puis un peu plus au sud, dans l'état de Washington, donc sur toute la façade pacifique du continent nord-américain. Et là, les ornithologues remarquent, même les biologistes, enfin les promeneurs, remarquent qu'un grand nombre d'oiseaux, de toutes espèces, hein, il s'agit de corneilles, de mésanges, enfin toutes les espèces endémiques de ces régions, ont des becs absolument grotesquement déformés. Les photos sont vraiment très très impressionnantes. On voit des mésanges avec des becs allongé, le bec est plus long que le corps de la mésange, ou des croissances anarchiques de bec de corneille qui aboutissent à ce que les deux mandibules se croisent et que le bec ne devient plus du tout fonctionnel. Donc ça, c'est pas là pour le coup, ça n'est pas des coïncidences comme ça qu'on mélange dans un récit pour lui donner du sens. C'est une vraie interrogation scientifique et pour l'instant, il n'y a aucune espèce d'explication à ce phénomène.
Les chercheurs n'ont pas trouvé encore pour l'instant d'éléments pouvant expliquer ce phénomène.
Pas le début d'une explication.
Ouais. Même les pesticides qu'on évoque.
Ce sont des régions qui sont très sauvages où il y a très peu d'agriculture. Uh-huh. il est très peu probable qu'il y ait des sources comme ça de contamination par des pesticides. On sait qu'il se passe quelque chose de manière absolument évidente, hein, c'est transparent, d'autant que la maladie progresse. Elle progresse lentement, ça fera pas l'événement comme ces oiseaux qui tombent du ciel morts, bien sûr, mais elle progresse de manière extrêmement inquiétante. Une publication scientifique récente donnait une incidence de 15% chez les corneilles d'Alaska, dont le bec est totalement différent. On peut chercher sur Internet, sur le site de l'USGS, de l'US Geological Survey, pardon, qui publie pas mal de photos. Les photos sont vraiment absolument stupéfiantes.
Est-ce que ce phénomène a été observé en France ?
Alors, il n'a pas été observé... Il y a un phénomène analogue qui a été observé aux alentours de l'usine Metal Europe. Il ne s'agissait pas du même genre.
Dans
le Pas-de-Calais, oui. Il ne s'agissait pas du même genre de déformation, mais plutôt des anomalies de kératinisation du bec qui n'ont, là encore, pas été expliquées. C'est-à-dire que c'est autour de l'usine que cette enquête a été menée. Et les oiseaux au bec déformé ont été retrouvés sur les zones témoins, là où justement on était le plus loin possible de l'usine. Donc les métaux lourds qui contaminent l'environnement immédiat du site industriel ne sont vraisemblablement pas la cause de ces déformations.
Roland nous dit ceci.